sous l'emprise des fantasmes sexuels niés, ne pense qu'à ça, même si elle n'a jamais en parlé, même pas à elle-même. Et c'est ça, violent, il sort quand? Ben, il sort dans les crises de boulimie, où elle lâche les défenses, alors elle s'empiffe d'une manière horrible. Je ne peux pas vous dire comment elle se comporte quand elle devient amoureuse, est-ce que ça se déchaîne comme ça aussi, c'est pas évident. Parce que là, il y a les sournois cruels qui est là et qui est vraiment d'une cruauté, comme dans peu d'autres maladies, peut-être dans la névrose obsessionnelle qu'on trouve des sournois au sang cruel. Alors, par conséquent, ces conflits font que toute la génitalité, elle devient régressive, il y a une telle peur de la libido, de la sexualité génitale. Et alors, le théoricien de ça, avec Evelyn Testenberg d'ailleurs, disait que c'est le grand fantasme inconscient de la fellation avec le phallus paternel, qui est l'incorporation du phallus paternel. Ça, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils l'ont pris, il fallait vraiment avoir des nanas en psychanalyse pendant 4 ans pour qu'elles finissent de dire ça pour faire plaisir à leur psychanalyste. Alors ça, c'est une des causes logiques, dans une logique psychanalytique, on peut se dire pourquoi une jeune fille de 16 ans a tellement peur de la génitalité, c'est parce que, et qu'elle la déplace sur l'oralité, on s'est dit, elle a peur d'avaler l'air. Avec les théories infantiles de la sexualité par la bouche, elle a peur de se faire féconder par la bouche. Ce qui est vrai, par contre, ce qu'on sent quand on les a en psychothérapie normalement, c'est qu'elle confond complètement, je crois que je vous l'ai dit déjà, le vagin, le rectum et l'œsophage. Ça fait 3 entrées qui, pour une anorexie mentale, sont complètement la même porte. Pourvu qu'il y a un trou, c'est dans le. Et les vagins en tant que trou, il est plutôt fort clos. C'est-à-dire, il n'est pas vécu comme tel, et tout ce qui passe par en haut, par les bas, c'est là que c'est super érotisé, elles sont super constipées, et elles érotisent la nourriture. Alors donc, c'est cette peur de la génitalité sexuelle, disons du vagin et de la vulve, qui passe dans l'oralité et dans l'analité. Alors dans l'oralité, ça passe d'une manière qu'on pourrait dire masochique, c'est-à-dire que, alors il y a un psychanalyste qui appelle ça joliment le masochisme érogène primaire. Qu'est-ce que ça veut dire en bon langage français? Ça veut dire que, alors que pour nous tous, le plaisir c'est d'être plutôt rempli, c'est ce que Freud a décrit pour un nourrisson qui se respecte, il est content quand il a eu son biberon, quand il est bien rempli, les yeux buccales, c'est mâchonner, c'est les clignons, c'est les hachiches, la cigarette, les bonbons, les biberons, les seins. Eh bien, ces nénettes-là, c'est exactement le contraire. Elles jouissent dans les vies. C'est pour ça que nous l'appelons, le psychanalyste l'appelle, le masochisme érogène primaire. Elles sont contentes quand elles sont vides. Et il y a même un de ces frères psychanalystes qui a trouvé ce mot que je n'ai jamais senti, l'orgasme de la fin. Je vous le cite sans aucune responsabilité personnelle. Et alors donc, cette oralité, elle éclate tantôt négativement dans l'érotisation de la fin, et puis tantôt, de plus en plus souvent par les temps qui courent, quand le sournois cède pendant un moment, elle éclate par le bruit. C'est-à-dire par des empiffrages culpabilisés, du type compulsionnel. Vous savez, ça nous les avons déjà dit. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'elle descend aussi vers l'analité. Que la libido régresse vers l'analité, alors c'est là qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a d'anal chez ces jeunes filles, alors qu'ils disent que c'est le rythme alimentaire. Puis, vous savez bien qu'elle ne mange que des aliments extrêmement précis et que leur prise de nourriture sont extrêmement ritualisées. Il y en a une qui mangera que les yaourts et les cerises, l'autre qui mangera que le fromage blanc, on en a parlé, c'est très ritualisé. Et puis comme ils disent, fécalisation des aliments, c'est-à-dire qu'elles ne distinguent pas beaucoup non plus entre la mère et le bol alimentaire, ça c'est vrai aussi, mais ça va avec cette confusion dont je vous ai parlé, rectum, vagin, oesophage. Et puis, sur l'investissement de la maîtrise, en prise manipulatoire sur les objets, qui est très anal, et ce que nous avons décrit déjà avant, sous le nom de mégalomanie. Ça, c'est donc l'histoire des conflits pulsionnels. Mais jamais nous dit que tout ça, ça ne sert à rien, que ce n'est pas assez profond, et que c'est la personnalité tout entière qui est changée. Alors là, pour cette personnalité, c'est là que je suis d'accord personnellement quand moi. Parce que, lui, il dit que finalement, tout le monde est d'accord sur la personnalité primordiale. Mais moi, je n'ai jamais eu cette impression. Il cite ici des histoires de Rothschild, de TRT, des MNPI. Moi, quand j'étais jeune, j'avais fait du MNPI aux anorexies, à une quarantaine d'anorexies. Je trouvais qu'il n'y a aucun signe spécifique, que la variabilité des profils était la même qu'entre nous si on avait fait des MNPI. Alors lui, il donne des auteurs, mais lui aussi, ça prouve que c'est variable, parce que les uns prouvent que c'est schizophrène, les autres disent que c'est faux signe de bonne santé, le troisième disent qu'il s'approche plus des psychoschizophrénies que des dépressions, le quatrième disent que le Rochard est sec et les TAT très riche. Bref, à mon avis, c'est la folie de chercher les personnalités très maudites. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand elles sont malades, la structure est totale. Elles sont malades d'un bout à l'autre et qu'on ne peut absolument pas réduire leur maladie aux symptômes anorexiques. Alors là, je suis d'accord que c'est toute la personnalité qui est perturbée. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien là, j'étais content parce que dans mon article d'il y a 15 ans, j'ai trouvé exactement la même chose qu'il dit lui, qui a été découvert en 70 au cours d'un symposium de Göttingen que je n'ai jamais vu. Je crois que ce qui est important, c'est que il y a les refus. Il y a un refus physique. Un refus de quoi? Un refus d'assumer la puberté et d'assumer les fonctions féminines. Alors ces refus se manifestent d'abord sur le niveau corporel, et actuellement des gens comme Hilda Bruch, dont je vous ai parlé déjà, Bruch, qui est sûrement la femme qui connaît le mieux l'anorexie mentale, et dit aussi que c'est les troubles de l'image corporelle qui sont à la base de tout, et que ces troubles corporels sont plus importants que les troubles de la fonction alimentaire et de son investissement sexuel de cette fonction alimentaire. Les refus physiologiques, ça se manifeste par l'absence des règles et même par le refus actif des règles, parce que ça, je vous l'ai déjà dit, que beaucoup de ces filles, pas toutes, mais beaucoup de ces filles vont dire, autrement, je m'en fous quand elles sont en période aiguë, je refuse d'avoir des règles, c'est beaucoup plus propre, les règles, c'est sale, c'est dégueulasse, c'est gênant. Moi, je suis beaucoup mieux, ça, mais ça, je n'en parle plus souvent. Deuxièmement, refus morphologique, c'est-à-dire refus de toute forme qui puisse faire penser à une femme. Elle en arrive à avoir l'air d'un squelette, mais avant d'être squelette, elles sont garçons plutôt asexués. Refus de morphologie, et puis surtout, le refus psychique, c'est... le refus psychique, c'est le refus d'accepter la condition d'être femme. Et c'est sûr que, d'après Bruch, ce trouble de Bruch, ce trouble de l'image du corps, ça va par la négation des sensations, des besoins et des perceptions introceptives venant du corps, qui sont tous niées. Par exemple, le besoin de nourriture, la faim, elle se sent bien, effectivement, dans un corps qui n'existe pas. Et dès que le corps prend quelque existence, que c'est toi, au début du traitement, eh bien, elles viennent toutes pleurer qu'elles étaient beaucoup mieux quand elles faisaient 30 kilos, elles se sentent gonflées, elles n'ont des messages introceptifs que ceux qui correspondent à un remplissage vécu comme un mal. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi de leur structure, et ça, ça m'a beaucoup plu, c'est que, alors que nous avons décrit avec tous les médecins leur mégalomanie, leur côté manipulatoire, leur volonté de toute puissance sur elle-même et sur le monde, c'est la description banale, Brunschild, de Brunschild, que derrière tout ça, ce n'est que des modes de défense, et que derrière ça se trouve, alors là je l'ai recopié parce que ça me paraît très pertinent, un sentiment profond de désespoir, d'impuissance, d'un intérêt, d'abandon et de dépendance. Et je crois que ces visions, ces deux visions, qui sont peut-être communes, mais selon, qui ne sont pas contradictoires au niveau de la personne, sont très importantes au niveau thérapeutique, parce que si le thérapeute insiste plus sur la mégalomanie, sur la puissance, eh bien, il aura tout de suite tendance à leur faire la guerre. Et il va dire, pour parler au niveau banal, il va parler comme des aides-soignants, c'est une salope, il faut la briser pour qu'elle guérisse. Si au contraire, il insiste plus sur ces facteurs que Guy de Bruch appelle sous-jacents, c'est-à-dire la dépendance, la détresse, le désespoir, qui n'est pas la même chose que la dépression, hein, eh bien, il aura une attitude thérapeutique tout à fait différente. Et par exemple, si vous prenez les gavages sera une excellente méthode dans une optique de briser la mégalomanie de la nana et de briser ce désir de puissance parce que ça, on lui montre, c'est pas toi le patron, c'est moi le patron. Par contre, si tu parles de, si tu dis que la maladie est à base de désespoir, de dépendance, d'impossibilité de s'autonomiser, ben les gavages vont être rejetés. Parce que les gavages, ça va la remplir comme un sac, mais elle restera encore plus dépendante qu'avant, au lieu d'être dépendante de sa mère, elle devient dépendante du grand patron. Donc vous voyez que ces visions psychopathologiques, je ne vous dis pas laquelle est vraie, je ne suis pas capable, mais je vous dis qu'elles ne sont pas du tout indifférentes par rapport au traitement que nous voulons de la pitié. Ensuite, il y a des Américains rigolos qui ont trouvé deux choses, je vous les signale quand même, ils ont nommé source, que comment se développe une anorexie mentale. Alors là, ça nous fait passer déjà un peu vers, vers les côtés familiales. Il dit que c'est des petites filles qui ont été élevées dans des familles où tout devait être conforme, des familles qui se voulaient banales, qui se voulaient comme tout le monde, et qui était si gentille et si protectrice qu'elle rendait toute révolte impossible. Il dit aussi que ces troubles viennent souvent par une impossibilité de s'identifier. Et ça, c'est pas faux, parce que effectivement, c'est pas faux, encore que c'est pas vrai dans tous les cas. Mais souvent, on trouve, et ça, ça nous permettra tout de suite de passer au niveau de la vie, que les mères des anorexiques mentales sont relativement souvent, disons, des malbaisés. C'est le moins de leur commun dénominateur. Parce qu'une fois qu'on sort de ce terme un peu vulgaire, on tombe tout de suite dans des divergences entre les auteurs, et surtout on tombe dans des divergences entre les mères et l'autre. Tel qu'on le voit, il y en a toutes sortes, et c'est cette caractéristique qui est presque constante, c'est qu'on sent bien, hein, que ce n'est pas des femmes qui trouvent beaucoup, beaucoup de plaisir aussi. Ceci dit, dans notre société, surtout dans les générations plus anciennes, les femmes qui trouvent beaucoup de plaisir au lit, ce n'est pas encore la majorité. Donc là aussi, il faut savoir si c'est un trait pathologique ou si c'est une conformité sociale. Et c'est sûr que ce qui caractérise ces mères, comme les pères d'ailleurs, c'est une conformité sociale assez extraordinaire. Et j'ai rarement vu des anorexies mentales dans des familles d'artistes, dans des familles de rigolos, dans des familles de margeaux un peu dévergondés, ça c'est évident, on voit d'autres maladies là-bas, on voit des psychopathies, on voit des drogués, on voit des délinquants, on voit des hystériques, mais on ne voit pas tellement d'anorexie mentale. Ça c'est évident que les structures familiales d'anorexie mentale, ce sont des structures qui sont considérées comme parfaites par n'importe quel assistant social du secteur. Et que quand ses parents viennent nous dire à la première consultation, nous avons tout fait pour elle, eh bien, on ne peut qu'applaudir de demain, c'est vraiment des parents qui ont tout fait pour leur fille, ils lui ont assuré vêtements, nourriture, bonne éducation, etc., etc. Et bien, c'est évident que chez certaines de ces filles, quand on fouille dedans, elles adorent leur mère au premier abord, mais pour rien au monde, elles veulent devenir comme elles. Alors, elles préfèrent ne pas être femmes. Thank you. Elles adorent leur père aussi, parce qu'elles aiment beaucoup leurs parents, mais pour rien au monde, elles ne veulent baiser avec un type comme leur père. Alors leur frère n'est pas baisé du tout. Vu qu'ils n'imaginent pas qu'un homme puisse être différent de leur papa. D'où l'utilité en psychothérapie de se montrer vraiment quand on est homme différent de leur papa et quand on est femme différente de leur maman. Ce qui n'est pas si facile que ça, parce que ça leur provoque une trouille absolument intense et très très importante. On y arrivera tout à l'heure. Avant de parler mieux de la famille, je vous dirai encore deux petites choses individuelles à propos de leurs rêves. Alors là, moi, je peux vous dire que pourtant Dieu sait que j'adore bosser sur les rêves, et il y a plein de patients qui m'apportent leurs rêves, et bien les anorexiques de toute leur vie. Je n'ai pas de rêve d'anorexique à vous raconter. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Et ils disent là, et j'étais tout heureux de trouver ça dans l'encyclopédie, je me suis dit que ce n'est pas moi le début quand même, comment ils disent que à la phase disparition des rêves pendant la phase active de la maladie. Et il ajoute, rêve de plus en plus élaboré et complexe au cours des psychothérapies. Enfin, ça veut dire que c'est évident, ça c'est pas spécifique de l'anorexie mentale. Vous savez très bien que quand il y a une psychothérapie quelconque, et quand les clients pensent que le thérapeute aime les rêves, et quand il a un transfert positif avec son thérapeute, même s'il ne rêve pas, il en invente pour faire plaisir à son thérapeute. Donc, c'est un des critères majeurs d'un bon transfert, c'est quand les clients vous racontent des rêves que vous êtes capable d'interpréter. Et je débrouille très bien pour vous donner des rêves que vous savez interpréter. Si par contre, il vous envoie des rêves que vous n'êtes pas capable d'interpréter, vous pouvez être à peu près sûr que bientôt, ils vont se tailler, il n'y aura plus de psychothérapie, et ils vous les envoient pour vous montrer que vous êtes un con, et ça lui permet de vous quitter. Ça m'est arrivé, ça mais ce n'est pas spécifique d'anorexie mentale. Là, j'ai remarqué que quand j'avais de plus en plus de rêves, et quand je savais dire n'importe quelle connerie, mais quand je savais dire quelque chose devant ces rêves, les psychothérapies, ça marche comme tout des roulettes. Si au contraire, j'ai des rêves qui ne sont opaques et les clients sentent, c'est opaque, moi je m'endors quand ils me racontent, j'ai l'impression d'écouter du chinois, et bien en général, les clients me considèrent très rapidement ou bien comme un je m'en foutiste ou bien comme un débile, et ils se taillent, ce qui n'est pas très grave, mais il y en a un qui s'est suicidé, ce qui était beaucoup plus grave, j'en pleure encore. Il y a 10 ans, j'avais un client comme ça. Bon, je ne sais pas si vous avez uniquement à cause du fait que je n'ai pas su expliquer ces rêves, mais ça entrait dans le contexte quand même. Bref, pour les rêves, elles ne rêvent pas beaucoup ces filles-là, ça c'est j'ai remarqué qu'elles ne rêvent pas beaucoup. Ça c'est évident, que, parce qu'avec les anorexiques, j'ai pourtant des relations transférentielles plutôt excellentes, nous en verrons tout à l'heure les dangers, parce que c'est très bien décrit, mais malgré ça, elles ne racontent pas beaucoup de rêves. Passons sur la fin. Alors pour la famille, il y a deux sortes de théories, des théories du type psychanalytique et des théories du type systémique. Ils sont assez opposés les unes des autres, ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors avant de parler de la famille, on a parlé d'un des mères. Alors de ces mères, c'est pareil, hein. Tantôt il y a des tableaux qui décrivent la mère comme la plus puissante, la rigide, la dominatrice, et d'autres qui la décrivent au contraire comme dépressive, ayant des problèmes elle-même avec sa propre mère, etc. Y a-t-il ou non un dénominateur commun? Eh bien, je crois qu'en dehors du fait que c'est des mal baisés, j'en ai pas trouvé. Ce qu'on voit, c'est qu'elles ne sont pas heureuses dans leurs propres conditions féminines. Ce qu'on voit souvent, mais pas du tout toujours, mais vous n'approchez pas, qu'elles exigent de la fille des succès sociaux, beaucoup plus que de son propre épanouissement. Je crois que je vous ai raconté il y a 15 jours l'histoire de cette nana, donc la mère m'a téléphoné pour les examens. Hein. Ah, c'était assez typique. Une jeune femme qui est en train de crever véritablement, une 29 ou 30 kilos, de niveau universitaire supérieur, et la mère hésite si elle doit la laisser entrer à l'hôpital parce qu'elle va la louper un examen, qui est complètement inutile, qui est le 47e certificat qu'elle passe. Et la mère elle-même pense que la fille a peut-être raison, il faut laisser. Et alors après, on apprend que c'est cette mère qui l'a poussée toujours à faire des études des études, une maladie. Bon, je vais pas me répéter. Alors la fille, alors ils disent des choses drôles pour cette pauvre mère, c'est que, et ça c'est souvent vrai, que la fille qui se croit comme ça investie de cet amour maternel, pas en tant qu'être de désir, pas en tant qu'être de révolte, pas en tant qu'être qui veut devenir autonome, mais elle est le bon objet de maman tant qu'elle reste objet, c'est-à-dire tant qu'elle peut écouter sa maman, tant qu'elle peut s'identifier à elle, et surtout tant qu'elle peut rester non pas mal baisée, mais non baisée, ou éventuellement mal baisée avec une nouvelle génération qui baisse quand même les frères. Et alors, donc, comme dit jamais d'une manière assez spirituelle, elle est fascinée par l'illusion de pouvoir servir à sa maman, et elle développe une espèce de faux self, d'un faux moi, qui est conformiste, qui est asexué, qui est gentil. Et toutes ces mères vous ont toujours dit, mais docteur, ma fille, avant de tomber malade, c'était un ange, c'était la plus gentille enfant, comment ça a pu arriver, alors que les mères des délinquants vous disent, déjà petit, c'était un drôle de voyou. Ça, c'est absolument évident que là, il y a, autant que la délinquance commence en fait de 6-7 ans, que les gosses pas comme les autres, au moins au niveau de leurs parents, autant le discours parental sur les anorexies mentales, c'est une espèce de paradis perdu de l'enfant. Ça, c'est vraiment vrai dans les familles. Je n'ai jamais entendu une mère ou un père dire que leur fillette présentait le moindre petit trouble avant de tomber malade. Au contraire, c'était toujours les phrases du type, mais docteur, jamais nous n'aurons cru que ça va lui arriver une maladie aussi grave. Jamais nous n'aurons eu l'idée de l'amener chez le psychiatre. C'était vraiment une enfant idéale. Et effectivement, ça donne quelques... C'est quand on écoute ces discours des parents, on comprend que les psychanalystes mauvais coucheurs disent bah, elle était tellement idéale que finalement, parce qu'elle n'existait pas. Non, il y a peut-être là un saut. Alors maintenant, il y a les pères. Alors pour les pères, c'est... des choses sont horriblement contradictoires. Alors dans notre travail qu'on a fait avec la jeunesse, on a trouvé que sont les pères absents, morts, divorcés ou falots en proportion statistiquement valable. Ne sont pas présents. À l'opposé, on trouve des pères un peu paranoïaques. Alors jamais qui aime beaucoup les pères, visiblement, parce que c'est un bonhomme, il dit que c'est des faux paranoïaques. Quand c'est une bonne femme, on dit qu'il y a une vraie paranoïaque. Quand c'est un bonhomme, surtout s'il est de bonne famille, on dit que c'est un faux paranoïaque. Quand on les voit, ceux qui sont paranoïaques, ils ne prêtent pas les yeux, ils soient. Mais jamais dit une chose de plus, il dit que quand ce sont des pères, mais peut-être que je vous les raconte, il en prend la responsabilité, ça m'a paru amusant, mais je ne l'ai pas vu comme ça. Il dit que quand c'est des pères qui ont des sentiments contradictoires, très visibles, et qui, par peur de leur contredire, tiennent à ce que leur jeune fille soit vierge, et bien là, on trouve des AM, des anorexies mentales du type hystérie. Et qu'au contraire, quand c'est des pères qui sont vraiment fuyants, rejetants, pseudo-paranoïaques, rigides et méchants, et qui ne font pas la cour à leur fille, comme le disait M. Clément Launay il y a 20 ans déjà, là vous pouvez le noter, c'est une phrase classique, que les pères. Un des gros défauts des pères de l'anorexie mentale, c'est qu'il ne fait pas la cour à sa vie. Ce qui peut se comprendre de deux façons. Il ne lui fait pas la cour parce qu'il se fout d'elle, ou il ne lui fait pas la cour parce qu'il a trop envie de coucher avec elle et il préfère la garder à distance. Dans le premier cas, ça va être une anorexie du type obsessionnel et dépressive. Dans le deuxième cas, ça va être une anorexie du type hystérique qui est quand même moins grave. Nous l'avons déjà dit à l'époque. Eh bien, quand on a vu les pères, quand on a vu la mère, on te demande comment est la famille. Alors là, ils disent tous la même chose. Famille conventionnelle, conformiste, apparemment unie, banale, aversion pour les plaisirs. Enfant transformé en support de la famille et les parents sont idéalisés. Dans les papiers de l'époque, d'une manière plus, comment dirais-je, plus pittoresque, je vais vous lire quand même des petits livres que j'avais écrits à l'époque. La famille des anorexiques mérite d'être mieux connue. Rasson les dissociations grossières et accomplies, comme on raconte chez les délinquants. Tout va bien dans la famille. Derrière cette façade bourgeoise et bien pensante, on trouve une difficulté de vivre, un conformisme résigné et un malaise. Le père n'a jamais fait la cour à sa vie, tantôt parce qu'il est mort, tantôt parce qu'il est trop occupé par ses activités professionnelles, plus rarement politiques, tantôt parce que la mère l'en empêche, en tissant un mur invisible mais infranchissable entre les deux protagonistes. Ça, j'en ai vu des cas comme ça, c'est très très net. J'avais vu dans votre famille quand la maman voulait empêcher le papa de s'occuper de sa fille et il arrive par 36 moyens. Ça, j'ai vu ça plusieurs fois dans ces familles où la mère joue un double jeu. Mon père elle va dire cette fille est méchante, elle avait tout le travail, elle ne travaille pas assez à l'école. Et à la fille, elle va dire ton papa, qu'est-ce qu'il est exigeant, qu'est-ce qu'il est mauvais, il ne faut jamais les déranger pour ne pas lui parler. Bref, je me rappelle, j'ai connu une fille comme ça. Elle aurait préféré crever que de dire à son père qu'elle l'aime. Alors qu'elle l'aimait d'une manière complètement fou, tout à fait naturelle, mais elle avait de tels empêchements pour le dire. Elle s'imaginait que son père va la tuer si elle lui dit qu'elle l'aime, alors que son pauvre père n'attendait que ça manifestement. La mère, elle est pleine de bon sens, elle a presque toujours raison, elle est ferme sur les principes et n'accepte pas qu'on la mette en question. Moi qui disais ça il y a 15 ans, mais ce ne sont pas toutes comme ça, c'est pas exagéré. L'approfondissement d'une relation thérapeutique montre que cette attitude cache mal une détresse profonde chez la mère. Et on apprend qu'elle a eu elle-même des problèmes alimentaires lors de son adolescence, qu'elle n'a jamais pu assumer sa sexualité, qu'elle reste frigide, qu'elle aborde le travail dans son foyer auquel elle semble consacrer toutes ses forces. Elle a des griefs multiples à l'encontre de son mari, et l'amour conjugal s'est bien éteint s'il n'a jamais existé. Et ça, ce n'est pas complètement faux. Je dis avec beaucoup de brutalité, mais ça va avec ce qu'on dit aujourd'hui, que ce que ses parents cherchent à montrer, c'est une image d'un couple idéal. Alors qu'en réalité, alors finalement, quand il y a des couples qui ouvertement s'engueulent, ça doit être d'anorexie mentale. Il y a des couples qui ne tiennent que par respect des institutions ou, comme on dit, dans l'intérêt des enfants. La lutte contre la sexualité. Elle dénie à l'être humain tout droit au désir sexuel. Elle refuse son corps en tant qu'objet de plaisir pour elle et pour les autres. Tandis que la faim peut finir par disparaître à partir d'un certain degré de conditionnement, le désir sexuel, lui, ne disparaît jamais. Je vous ai dit que, en fait, c'est le surmoi cruel pour maîtriser un sang puissant. Bon, alors maintenant, on en a fini avec la psychopathologie et restons un peu sur les... Ah oui, alors les systémiques, ce qu'ils ont trouvé, bon, c'est Selvini et Mnuchin, moi je ne vous les raconte pas parce que ça me laisse un peu froid. Il étudie vraiment que la communication, il agit avec des paradoxes et des contre-paradoxes, et il ne donne pas une psychologie facile à comprendre. Ce qu'il dit, c'est en gros qu'il y a la surprotection, la rigidité, l'évitement et la non-résolution des conflits. J'ai vu qu'ils disent ça pour toutes les maladies des systémiques, alors c'est pas spécifique d'anorexie mentale. Eh bien, passons à la thérapie. Alors, voyons d'abord la réalimentation. Eh bien, c'est sûr que je vous ai déjà dit, certains proposent une réalimentation brutale, qui était très à la mode dans mon temps. Maintenant, on pense plutôt à une réalimentation. Moi, personnellement, je ne les fous à l'hôpital que pour une réalimentation, quand ça vraiment on ne peut pas faire autrement, par voie parentérale. Mais ils disent à justice qu'il faut être très prudent, il y a eu des cas de mort. Parce que vous ne savez peut-être pas que ces filles sont horriblement tolérantes aux troubles électrolytiques, elles arrivent à vivre avec un potassium d'un milieu équivalent, et si on les rééquilibre trop vite, elles peuvent clapoter par les démodules du coup. Donc, à actuellement, la mode est plutôt à l'effet de la nutrition. Depuis qu'on a inventé la nutrition, on préfère la nutrition à la réalimentation parentérale. Et si on fait une parentérale, il faut vraiment la faire penser des psychiatries, des personnels, comme les médecins qui sont assez tarés pour tout ce qui concerne la biologie et la réanimation, mais il faut la faire dans un service de médecine digestive ou de nutrition, où on peut faire des lionogrammes tous les jours, et il faut les considérer comme des très grands malades somatiques à ce moment-là, et pas question de vous amuser dans des services de psychiatrie de province, de faire des réalimentations parentales à des nanas qui restent 26. Ça me paraît une erreur thérapeutique grave si vous n'avez pas un labo d'excellente qualité disponible tous les jours, et si vous ne savez pas vous-même exactement comment il faut procéder très lentement. Alors qu'avec une nutrition, il y a beaucoup moins de risques. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Alors c'est sûr que là aussi, que des gavages, ils favorisent, ils donnent des très bons résultats dans l'immédiat, mais à longue échéance, je pense qu'ils favorisent l'attitude passive et ils favorisent ces sentiments de détresse et d'impuissance. C'est quand même une drogue de la personnalité. Le deuxième volet classique, c'est l'isolement. Vous savez que l'isolement, depuis la SEG, fait partie de la base du traitement des anorexies mentales. Et jamais ici, dans un petit chapitre, se pose des questions très pertinentes pour expliquer comment ça marche. Et il dit que en première approximation, on pourrait dire que ça marche par une espèce de behaviorthérapie avant la lettre, que ces filles ne demandent qu'à retrouver leur famille, et qu'on se sert de l'isolement et des petites permissions, comme du bâton et de la carotte selon le poids. Ça, c'est un peu l'opinion des gens qui pratiquent maintenant l'isolement à toute systématique. Mais il dit aussi que ce n'est pas toujours vrai, et c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça, parce que ces filles, très souvent, désirent elles-mêmes s'isoler de leur famille et l'isolement leur fait du bien parfois. Mais parfois aussi, dès qu'elles expérimentent quelques jours, elles tombent dans des angoisses folles. Là, elles demandent de partir, elles ne se jettent pas la tête, elles ont un tas de signes d'angoisse mal maîtrisés. Il y a peut-être quelque chose d'autre dans cet isolement qui leur fait du bien, mais ce que je constate, c'est que même des types comme Jamais, comme Lubetzky, actuellement, on est beaucoup moins à cheval que l'isolement qu'avant. Et quand il s'agit de mon point de vue alors très personnel, moi je suis contre les isolements bureaucratiques, d'abord parce que je ne les supporte pas, parce que ça ressemble trop à la prison et à la camp de concentration, parce que c'est trop frustrant, et je pense que des visites un petit peu réglées avec un travail sur la famille pas trop fréquent, pas trop envahissant, c'est beaucoup mieux que l'isolement. Là, je vous l'ai dit très franchement, que ces systèmes d'isolement étaient beaucoup faits, à mon avis, c'est plus vache que jamais, hein, pour donner la toute-puissance aux médecins et remplacer la toute-puissance, pour remplacer la toute-puissance de la fille et de la famille par la toute-puissance du médecin. Et c'est ça peut-être le gros succès de l'isolement. Et j'étais très heureux de voir que Jamais ne consacre que 1, 2, 3, 4 lignes et demie à l'isolement. Et du coup, il n'en est pas très fier, pourtant il les isole aussi. Mais il n'insiste pas trop. Moi, je l'ai marqué là avec une Patricia. Elle a dit qu'elle va devenir folle et qu'on ne laisse pas entrer les parents après 4 jours. J'ai dit qu'on laisse entrer les parents sont venus, elle a pu faire sa grande crise de se rouler par terre, sa grande crise de larmes devant les parents qui étaient dûment chapeautés par moi avant la visite pour dire que si vous cédez, moi je m'en fous, mais vous direz à Patricia que je vais vous montrer d'elle, et bien ils ont très bien résisté à la crise, elle a fait la crise, elle était comme une petite tango. Et si on lui avait interdit la visite parentale, elle aurait eu toujours son vécu d'être violée, d'être emprisonnée, d'être, etc. Moi, je pense que toutes ces mesures, si on les applique d'une manière bureaucratique, c'est vraiment contre les malades, je ne suis pas du tout. Autant, je suis d'accord qu'il faut se débarrasser des parents, il est 6 heures par jour à l'hôpital, ça je suis d'accord, c'est pas question de donner liberté totale de visite avec les filles et les demandes pas. Autant faire des visites peu fréquentes, favoriser les visites du Jules plutôt que si Julia, des frères, etc. Donc l'isolement, moi je trouve que c'est une méthode sadique. Ensuite, l'isolement, pourquoi je n'aime pas? Alors là, c'est tous les problèmes de socialisation. Je pense qu'on ne peut pas parler d'anorexie mentale sans parler du contre-transfert institutionnel. Et ça, je l'avais dit déjà il y a 15 ans, et j'étais très content de le dire, que c'est une maladie qui provoque des pulsions contre-transférentielles sadiques chez les médecins, chez les infirmières, chez les filles des salles, chez tout le monde. Une de mes élèves en psychologie qui a écrit une très belle thèse de psychologie là-dessus, sur le contre-transfert sadique de l'institution par rapport aux anorexies mentales. Alors, quelques phrases que l'on trouve. Il faut manger mon petit, vous ne pouvez pas faire cela, pensez à vos parents. Alors, ce n'était pas les grands médecins qui disent ça, mais c'est les plus personnels. Si un petit n'a pas été vraiment éduqué par un psy, pour leur dire ce qu'il faut dire, ce qu'il y a, ils sont toxiques d'une manière incroyable. C'est ce genre de conseils de bon sens. Il y a aussi, ça c'est ce que fait Moron à Toulouse, recherche d'un choc et d'une frustration. Rendez-vous compte combien vous êtes laid. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, moi je l'ai dit en 1964, et il y a 3 ans, j'étais exposé ouvertement dans une réunion de l'évolution psychiatrique, de psychologie médicale. Le professeur Moron de Toulouse, il a fait la vidéo actuelle des faces de profil, comme à la préfecture de police, et qui leur montre, et ensuite il leur fait passer les images, pour leur montrer combien elles sont horribles, laides, non baisables, ignobles à part égard. Et il dit que ça provoque un choc, et quand elles ont un grand choc, elles pleurent 6 heures, et après elles se jettent sur la route. Moi, je pense que ça ne fait pas du tout ce genre de traitement, même si ça donne des bons résultats immédiats dans le sens de grossissement, je pense que c'est des traitements qui peuvent traumatiser une jeune fille pour le reste de ses jours, et à longue échéance, pour la reconstruction narcissique de ces jeunes filles, si on admet précisément, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'à la base, chez elles, on trouve la dépendance, la détresse, l'insuffisance, si on les traite de cette manière, à mon avis, on ne fait que les enfoncer. Et l'expression des tatous, ah oui, celle-là aussi, je la connais, je t'ai fait bouffer tes vomissements et je t'enfermerai chez les fous. Alors ça, je l'ai entendu, je ne sais pas combien de fois. Alors, cette attitude-là. Bon. Alors, maintenant, c'est vrai que des fois, toutes ces attitudes marchent. Ça, c'est évident. Alors, j'ai expliqué un peu ici. Ces attitudes résultent d'une part du caractère agaçant et inquiétant d'une malade, aussi la toute action thérapeutique qui se tue devant nos yeux, qui refuse la perche tendue, qui bafoue la science médicale, et aussi l'incompréhension de la profondeur du drame et l'interprétation des attitudes des malades comme relevant de l'hystérie, de l'assimilation, comme on peut ajouter aujourd'hui, des luttes de puissance. Alors, il faut que ce prêt de la vie semble se complaire dans cette relation sadomasochiste. Et c'est sûr que les services, plus elles sont sadiques, les services, plus ça guérit vite. Mais aussi, plus les rechutes sont fréquentes et immédiates. Et ça, j'en ai vu des filles. Alors, là, je me suis permis cette jolie comparaison. Certaines de ces jeunes filles nous ont fait penser à leur sœur délinquante, qui attend sagement dans la maison des corrections le jour de leur majorité pour exorcer la prostitution, désormais sans enfant. Et c'est évident que dans ces services, j'ai vu des filles qui sont très soumises à la grande joie du patron, qui bouffent tant qu'elles peuvent, dès qu'elles ont atteint le poids, elles se sauvent, et elles recommencent la grève de la faim dès le lendemain. Exactement comme les drogués quand elles sortent d'une d'une drogue. Alors jamais nous propose une thérapie institutionnelle, c'est-à-dire que c'est l'isolement à peu près mais pas trop sauvage, l'hospitalisation, le fameux contrat. C'est-à-dire qu'il ne sortira pas avant tant et tant des kilos jusqu'à l'utilisation de la force qu'il a pu de briser les contrats. Ça je sais puisque j'allais souvent dans son service, il n'hésite pas de leur casser la figure et de les enfermer à pied. Ce qui est complètement illégal parce que c'est un service libre, mais il s'en fout, il les enferme à clé quand même, non pas au nom de la loi, mais au nom du respect du contrat de la vie. Donc il se sert comme une grande tierce dans ce qu'il a fait. C'est ce qu'il fait jamais, il a de pas mauvais résultats, il a vraiment plus de suicide que les autres. Parce que, étant donné cette situation, je pense qu'il a pas mal de suicides, mais les autres en ont aussi. Oui, alors ce qu'il y a des biens, c'est jamais, au moins d'après son discours, sinon dans la réalité, c'est que, alors que dans les services classiques à la Lacelle, l'isolement était total, ce que j'ai connu aussi à Foch à la Salpêtrière quand j'étais jeune, c'est-à-dire les trucs noirs sur le... Parce que l'isolement, il y a différentes choses. Il y a l'isolement de la famille et il y a le mitard. Et c'est sûr que quand j'étais jeune, on les soignait, c'était le mitard. Ce n'était pas la prison, c'était le mitard. C'est-à-dire, la fenêtre était entourée des noirs, la porte était entourée des noirs, et elle ne voyait personne, juste le geôlier, le grand patron. Il venait tous les jours leur faire la morale, c'était des coups qui faisaient ça, il les entretenait parfois des plafonds, des coups, des coups, des coups, et alors le geôlier qui apportait la bouffe. Et puis, on leur permettait de sortir 5 minutes, 10 minutes, quand le poids augmentait, on permettait de sortir dans le couloir. Ça, c'était le vrai style, la sèche, l'isolement total. C'est que, maintenant, on fait de moins en moins de services comme ça, et jamais, au contraire, ce qu'il fait, c'est l'isolement par rapport aux visites, mais pas du tout l'isolement dans le service. Ça, c'est quand même une sacrée différence au niveau de la vie quotidienne, où il n'enferme ses filles qu'au cas où elle brise les contrats de jamais plus d'un ou deux jours. Alors là, ça fait donc prison normale et une tarte de temps en temps. C'est beaucoup plus humain qu'une tarte permanente. Et alors, dans ce service, ce qu'il fait de bien, c'est qu'il dit au moins qu'il y a toujours une infirmière et un médecin qui jouent le rôle des papas-mamans. Et qu'ils permettent à ces jeunes filles d'avoir des échanges, des relations. Ce n'est pas la vie de jeunes filles avec qui je parle. Voilà comment faire. Bref, moi ce qui m'a frappé dans l'hospitalisation, c'est surtout essayer d'éviter les relations sadomasochistes. Alors, je ne dirai qu'un petit mot de thérapie comportementale, qui sont, comme vous le savez, bon, je suis tout à fait contre, bien sûr. Ah oui, je voulais dire aussi que pour jamais, il y a ce qui fait partie tout à fait du système thérapeutique, c'est des groupes de parents. Ils s'occupent des parents en même temps, indépendamment de la gosse, ce qui est donc très différent de la méthode systémique, et son but c'est d'éculpabiliser les parents et leur faire mieux supporter la prison qui inflige le contrat à leur petit chef. Alors les comportements, c'est évidemment là les traitements les plus sadiques, alors c'est pas la peine de vous en parler plus. Quelques traitements médicamenteux, alors là il y a vraiment électrochoc qui était pratiqué énormément dans tout le sud-ouest de la France, par centaines et par centaines. Dans le reste de la France, c'est quand même moins pratiqué. Mais c'était une thérapeutique qui est encore un petit peu plus comme le poing, elle ne fait pas des grimaces, ne croyez pas que j'en parle. C'était le grand monsieur Lamoukari, qui était le dictateur de la psychiatrie de tout le sud-ouest français, et qui publiait dans le concours médical tous les 5-6 ans.
L'article précédent de l'AFC, celui que j'avais lu l'année dernière, c'était la Boucari qui l'avait fait.
Et il disait que le traitement d'anorexie mentale, c'est l'électrochoc. Et il s'est vanté de 600 anorexiques électrochoquées, avec des coups de poids après l'électrochoc, Paris, moi, dans, même dans les services les plus policiers où j'ai travaillé, on ne faisait pas de réflexion. Un autre traitement qui avait, qui est un peu à l'honneur et qui se fait encore des de là, c'est la soi-disant insuline unique. L'insuline unique, qu'est-ce que c'est? Vous le savez peut-être, c'est des insulines avec package, mais où on ne va pas jusqu'au coma. On va jusqu'au frisson, l'angoisse. Et... ce traitement me paraît-il excellent, sauf qu'il donne des cas mortels de temps en temps. Alors ça réduit le problème. Alors c'est tout ce que j'ai trouvé le plus beau dans la série, c'est carrément les lobotomies et les leucotomies. Mais ça ne pense pas que c'est des cas qui en France, c'est en Amérique et en Amérique. Alors vous voyez donc que les déchaînements du sadisme médical n'ont pratiquement pas de limite en Westphalie. Alors ce qu'il y a, jamais raconte d'ailleurs, à que beaucoup de ces leucotomies, les bilans étaient maigres, on trouve des suicides après, et puis des comportements uniques, incontrôlables, et qui deviennent 120 kilos. C'est pas évident que ça plaît aussi. Ça c'est pour les lobotomies. Ensuite, pour les médicaments, ben, il y en a certains qui déboutent à l'opéridol. Le mieux faire supporter les électrochocs, d'autres les bourses d'étoffrenie. Bon, c'est à peu près tout pour les traitements psychiatriques médicamenteux. Maintenant, pour les hormones, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas vous répéter. Je pense que ça a une valeur très supplémentaire, sauf la pilule qu'on peut donner. Ce que je fais avec les filles, c'est-à-dire accepter les psychothérapies sans hospitalisation. Je commence à me dire de plus en plus que ce n'est pas tellement la mort. Maintenant, je ne peux pas faire autrement, parce que j'ai, moi, on n'en voit que des cas les plus graves, les cas qui ont vraiment été déjà, qui ont 5-6 ans et après des anorexies de vie. Alors ces filles-là, si je ne les fous pas à l'hôpital, c'est pour la bonne raison que si je voulais les foutre à l'hôpital, je ne les aurais plus en psychothérapie. C'est-à-dire, ça fait partie de mon contrat avec elle, que je le foutrais à l'hôpital que le jour où elle maigrisse trop et que j'établis avec elle une zone où j'accepte un travail psychologique.
Elles étaient hospitalisées auparavant.
Elles étaient souvent hospitalisées avant de me connaître, c'est une des échecs. Ceci dit, je pense que quand une fille de 9-16 ans qui est anorexique depuis un ou deux ou trois mois, une hospitalisation, c'est quand même la chose la plus prudente. Et ce qui est important, c'est de faire la psychothérapie tout de suite à la sortie de l'hospitalisation. C'est là qu'on a sûrement les résultats. Alors, qu'est-ce qu'il dit là de psychothérapie de soutien? C'est un peu ce que je fais. Sont les plus répandus, les bien possibles à l'adresser d'apporter les policiers. Alors, jamais s'interroge sur la nature des mécanismes de l'action. Et je pense qu'il dit des choses qui n'ont pas eu très pertinentes. Il est vraisemblable qu'il tire leur efficacité de la continuité relationnelle. Et c'est sûr que ces filles qui me connaissent 6 mois, 1 an, 1 an et demi, je représente quelque chose de très stable, qui n'est pas les parents, qui est très différent de leurs parents, et qui n'est pas les plus rigolos, c'est pas la psychiatrie qui s'est fait, où elle voit tantôt un externe, tantôt un interne, tantôt le patron, tantôt une psychologue. C'est-à-dire, il y a les côtés par individuel. Ainsi que l'idéalisation habituelle du thérapeute. Ça, c'est évident qu'elle l'idéalise d'une manière absolument pathologique. Je pense que cette idéalisation, pour me faire plaisir, ça joue certainement. Et c'est sûr que dans une situation aussi dramatique que cette Patricia-là, il a suffi que je lui dise « je te laisse tomber si tu sors de l'hôpital », c'est parce que par la fenêtre, elle n'a pas réclamé sa sortie, elle s'est vite calmée, je pense que c'était la mort le plus fort. C'est-à-dire la peur de perdre sa relation avec moi. Ça, c'est donc le bon côté de la chose. Et puis, il dit aussi de la relation du type hypnotique. C'est-à-dire qu'elles sont fascinées par ce thérapeute, et c'est pour ça que, comme elles étaient fascinées par leur mère avec les alors il dit que ça c'est positif, tout ça contribue à assurer à la patiente l'apport narcissique nécessaire à la restauration de son propre image d'elle-même et de sa continuité. Donc lui utilisateur est bon côté. Mais alors là où il y a un danger, il dit, et ces dangers, je les sens très souvent maintenant, et je suis en train de réviser ce que je fais. Mais on court le risque de s'installer dans une relation infinie, peu mobilisatrice, qui laisse subsister les besoins de dépendance de la patiente et rend potentiellement traumatique toute séparation. Et c'est évident que j'ai vu la résonance quelques matins, donc je suis vraiment pas très fier. Ils passent leur temps à chanter ma gloire dans leur banlieue ou dans leur quartier. Ils vous disent donc c'est génial, formidable, adorable. Et puis finalement, n'avance pas de dessus. Alors c'est-à-dire que ça devient une espèce d'exercice, et ça va pour ça que je vous l'ai dit, parce que ça m'a paru pertinent. J'allais dire que ça se voit dans tout. L'analyse et la psychothérapie, c'est très fréquent. Mais n'empêche que là, il y a quelque chose que je sens douloureusement avec quelques filles, qu'on installe une relation thérapeutique apparemment géniale, très flatteuse pour les thérapeutes parce qu'on peut tous aimer, adorer, avoir des transferts positifs. Mais quand on la regarde objectivement, alors moi j'ai l'impression que ça me donne que plus loin que jamais. Et ces nanas ont tellement réussi à me manipuler qu'elles m'ont foutu dans leur système de vie au même titre qu'il y a papa, il y a maman, il y a Tom, et puis il y a mon anorexie. Je ne baisserai pas plus avec Tom qu'avec mon papa, mais on cause. Et puis on est toujours aussi maître. Et ça, c'est... Et il y a une dépendance terrible, une rechute quand je pars en vacances, et ça j'ai vu, et là il y a quelque chose qui cloche dans mon système, et je vois que je ne suis pas seul parce que pour que jamais le dise, ça doit arriver aux autres. Et c'est sûrement plus important dans la psychothérapie des anorexies mentales que dans la psychothérapie du niveau hystérique, qui ont senti bien davantage. Et alors il dit quand même une chose gentille, qu'elle peut de façon positive permettre un réinvestissement libidinal du corps et redonner un plaisir à fonctionner. C'est vrai que quand elles me suivent pendant un an, au moins, on peut causer sexualité avec elles, alors qu'au début, on ne pouvait même pas, et puis elles m'affirment avoir des désirs sexuels. Mais parfois, je me demande si c'est vrai ou si elles disent ça pour me faire plaisir. Non. Parce que c'est quand même dingue que les patients peuvent mentir pour me faire plaisir. Et puis je les sens. Je ne sais pas, au début, j'étais tout fier quand je qu'elle rêve au monsieur et tout, mais maintenant, si elle rêvait vraiment longtemps, ben, elle se dépêcherait de guérir. Et si elle prend des ciborettes, si elle manifeste des désirs et se laisse toujours mettre comme des clopinettes, je me demande s'il y a des... Bon, voilà donc pour les psychothérapies à la tombe. Donc, restauratrice du libido, non paternaliste, sans analyse des transferts ou avec très peu d'analyse des transferts. Avec leur côté positif, c'est que ça calme les familles, ça calme tous les troubles caractériels supplémentaires. Le côté négatif, ben ça ne donne pas la guérison aussi vite que j'aurais voulu. Et là, j'ai vu là, avec Patricia, j'ai une série noire maintenant. On voit que j'ai une maquille qui a guéri quand même. Ça dépend. Il y a une bombe, mais c'est pas. Je ne garderai rien de vous dire que c'est une panacée et que je n'ai pas du tout le syndrome des taureaux avec ma maquille. Voyons maintenant la psychanalyse. Alors la psychanalyse, ça me fait plaisir de trouver ça sous la plume de Jamais, qui est pourtant psychanalyse. Elle est franchement contre-indiquée quand elles ont moins de 17 ans. Et moi, je suis plus vache que Jamais, je dirais, quand elles ont moins de 21 ans. Ben, je pense que le système psychanalytique avec ces filles-là est carrément criminel. Et je sais qu'Evelyne Testenberg, qui faisait des psychanalyses à n'importe quel âge, elle était vécue comme horriblement sadique par les rares filles que j'ai vues qui sont passées en scène. Et c'est pas supportable, et ces filles, comme d'ailleurs tous les adolescents, mais elles encore plus que les autres, sont absolument pas foutues de supporter une psychanalyse. Par contre, ce que je pense, et là je le pense très sincèrement, quand on a des filles, parce que là j'en ai vu pas mal, que je guéris apparemment, mais je sens qu'elles sont quand même pas prêtes. Alors, si elles veulent aller encore beaucoup mieux, bien guéries, voilà, leur conseiller une psychanalyse personnelle après une guérison. Trois quarts des guérisons obtenues par une psychothérapie comme ça, à la bonne commande, qui tient l'invigoration, relation face à face, c'est pas une mauvaise. Mais je pense qu'une anorexie mentale, une psychothérapie, une analyse lui fait du bien, une fois quand elle est guérie. Quand elle est guérie, au moins au niveau du symptôme. C'est-à-dire quand elle est suffisamment forte pour qu'elle soit guérie, qu'elle ait un poids régulier, il n'y a plus de rechutes énormes à craindre, etc. Autrement, j'en ai connu quand même des cas désastreux d'anorexie sous psychanalyse, des cas vraiment assez désastreux, qui arrivaient jusqu'à des compensations psychotiques avec des attachements. Là, les filles sont attachées à moi, je les sais, mais ça n'a rien de comparable avec certains transferts délirants que j'ai vus envers des analystes de la part d'anorexie mentale à qui on avait sa propre. Donc l'attitude analytique typique, c'est-à-dire les divans, la neutralité bienveillante, les silences, je pense que c'est très mauvais tant qu'elles sont jeunes. Voilà, la psychanalyse a pu être proposée dans sa forme classique de la cure type, dans quelques cas avec des résultats inconstants. Voilà. Elle correspondait à une période où l'anorexie était envisagée sur le modèle de l'hystérie. Par la suite, etc. Il n'est plus question de faire des interprétations du transfert, etc. Il dit des choses tout à fait raisonnables là-dessus. Il faut passer très lentement le défense du caractère, etc. Je pense qu'il faut parler avec elle et pas question de rester silencieux. Et il dit actuellement, les psychanalystes qui s'occupent le plus des anorexiques ne préconisent plus une psychanalyse contemporaine de la conduite anorexique. Vous voyez, ça, c'est, là, je suis parfaitement d'accord avec les psychanalystes-là. Tant qu'il y a une anorexie, il faut une psychothérapie, mais pas une psychanalyse. La psychanalyse, après. Ils disent qu'elle ne pourrait être ressentie comme passivisante. Et séductrice, sans possibilité compensatrice de contrôle du thérapeute par la vue. Elle peut être envisagée à distance de l'épisode anorexique. Alors la méthode de choix, c'est la psychothérapie psychanalytique. Alors maintenant, moi je vous avoue que je vois mal la différence entre ce que je fais et qu'il appelle soutien et ce qu'il appelle plus loin psychothérapie psychanalytique. Ça devient très pinaillage et en fait, chacun le fait comme il l'entend, selon la cliente, selon soi-même. C'est évident que moi, ce que je fais, tant qu'elles ne sont pas crevantes, moi qui ai crevé, je parle très peu de bouffe, très peu de poids, très peu de ces choses-là, et on pousse à les parler des fantasmes sexuels, des papas, maman, amants, corps, sexe. Alors, Edith Kestenberg faisait du psychodrame, bon. Elle est un brusque, elle pense un peu comme moi, elle dit des choses très jolies. Elle dit que la psychanalyse, elle dit que les thérapies comportementales renforcent le désespoir. Les thérapies familiales dit le désespoir et la psychanalyse accroît les sentiments de la dépendance de la patiente à l'égard du personnage omnipotent. Bon, alors maintenant, un mot et je terminerai là-dessus, c'est la place de la famille. Le groupe des parents, moi, je n'ai pas trouvé que ça donne de très bons résultats. Moi, j'ai vu que quand les parents sadiques, ça leur apprend des sacrés systèmes pour emmerder leur fille, pour l'enfoncer encore davantage. Alors, je suis un peu... Je pense qu'avec les parents, il faut s'assurer de leur neutralité bienveillante et faire leur alliance thérapeutique avec eux. On ne gagne pas avec une psychothérapie, on ne gagne pas avec une anorexie mentale si on a la famille contre soi. Ça, vous pouvez les marquer, les souligner en rouge. Même un thérapeute aussi génial que moi, je me suis cassé la gueule d'une manière lamentable, comme les derniers des Blancs-Becs, chaque fois que j'ai laissé trop libre cours à mon compte transfert négatif envers les parents. Si vous n'arrivez pas à vous allier avec les parents, Eh bien, c'est la fille qui est foutue. Ceci dit, c'est pas du gâteau de s'allier avec tous les parents, vous voyez pas. Parce qu'ils font tout pour vous foutre à l'échec. Là, aujourd'hui, c'est ma amie, j'ai eu au téléphone la mamie de maman qui m'a dit, docteur, je vous jure, je ne ferai jamais rien comme vous, je sais que vous avez sauvé la vie de ma fille, etc. Moi, je me méfie quand elle me dit ça, je me méfie de ce que ça cache. Alors, je vous dis, vous parlez encore rien, votre fille pèse 31 kilos, elle n'a pas sauvé pour un sou. Vous ferez vos gros remerciements quand elle aura un jeu. Alors là, j'ai senti au téléphone, si tu veux, ma fille, je veux que ce soit guéri, mais je ne vais pas faire des gens. Alors, j'ai dit, oh là, j'ai marié, comme vous voulez. Hein. Ah oui, ça, je voudrais. Parce que c'est vrai que ce que veulent les parents, et là il a raison de remarquer, ils veulent que la fille devienne comme avant. Et comme avant, ce n'était pas une adulte qui baisse, c'était une petite fille qui mange. Alors ça, je crois que aussi vous pouvez le noter, que les parents qui empêchent la guérison, c'est parce qu'ils voudraient juste la guérison du symptôme alimentaire, mais ils voudraient des préférences que la fille ne devienne pas une femme adulte quand même. Et ça, la seule chose qu'il faut expliquer aux parents, on y réussit quand même parce que ce n'est pas des salauds, les parents, mais on n'y pense pas. C'est là qu'il faut se battre avec eux gentiment, c'est de leur faire comprendre ces trucs, que la guérison d'une anorexie mentale, ce n'est pas la guérison d'une grippe où on devient comme on était avant la grippe, mais que c'est une crise et après ça ne sera plus la même personne qu'avant. Et ça, les parents ont beaucoup de peine à l'étiger et c'est une des raisons pour laquelle ils s'opposent au fait. Que vous me saisissez là. Mais il faut le faire là aussi en douceur et en essayant de comprendre ses pauvres parents et surtout pas en donnant du cours à son compagnon. Bon, ben, je crois que cette fois-ci, je vous jure que j'en ai fini avec l'anorexie mentale, vous en avez plus à
et les systémiques, ils ne parlent pas donc des résultats de.
Ben, les systémiques, je ne peux pas vous exposer ce qu'ils font, c'est exactement la même chose que pour toutes les autres maladies. C'est-à-dire les conduites paradoxales. Il y a un qui fait des choses amusantes, qui fait des séances à table, il fait manger tout le monde avec le thérapeute, l'anorexique, le thérapeute. Ils disent des choses, j'ai lu des articles là-dessus plus touchés que jamais. Il leur interdit de manger, par exemple. Il fait des trucs comme ça. Alors moi, je n'ai pas l'habitude, je ne peux pas vous faire un exposé là-dessus intelligent. Pour les systèmes systémiques des anorexies mentales, alors je préfère rien dire, surtout que vous pouvez très bien dire les modèles. Paola, c'est difficile ou...
Bah, ça n'en pas plus que...
Comment?
Ça n'en pas plus que d'autres.
Bah, c'est-à-dire, c'est compliqué thérapeutique. Si la famille accepte, ça marche. Ça donne des très bons résultats. Les échecs ici, c'est que les familles lâchent très vite. Il y a énormément de familles qui lâchent très vite au bout d'une ou deux séances. Mais je pense que les familles qui acceptent 7, 8, 9, 10 séances de ça, les résultats ne sont pas si mauvais que ça. Je crois que le danger des méthodes systémiques, c'est que ce sont des méthodes très contraignantes, et puis que ça marche avec ceux de familles qui acceptent ces contraintes, et puis les familles qui n'acceptent pas ces contraintes, bah, elles fichent le camp. Vu que ça se passe quand même en libéral, ils vont chercher ailleurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de succès. Je n'ai pas dans une bonne bibliographie sur les systèmes, mais il y a Oslo, qui est Oslo, c'est un copain qui a écrit un article en Suisse, mais je n'ai pas la bibliographie, et il y a les livres de Céline. Là, jamais ce qu'il en dit, ce n'est pas très intéressant. Visiblement, ça ne lui plaît pas, il les sabote. On va passer vers le film. Alors maintenant, à partir de maintenant, on va faire la série, on a fini.